Je vous hais tous. Moi je hais la terre entière, je la hais. Vous croyez pas privilégié, car vous aussi je vous hais.
Je vous hais, je vous hais.
D'ailleurs tout le monde je méprise, plus personne je peux encadrer. Pour moi je ne fais pas de racisme, vous êtes tous dans le même panier.
Je vous hais, je vous hais.
Je sais mes rimes sont très riches, mais de quoi vous vous mêlez. Si vous êtes les plus forts fiches, il fallait les composer.
Je vous hais, je vous hais.
Sur les flics, je m'énerverai pour rien. J'ai une très bonne tactique, je l'ai fait mordre par mes chiens.
Je l'ai, je l'ai.
Jean-Luc Grosso et...
Et qui?
C'est à vous de vous présenter.
Moi, ah oui, je
vous...
Roger Fringant.
Si vous voulez, moi je vous présente, mais on n'aura pas le Roger Fringant que vous savez le faire.
Je sais pas. Allez, Roger Fringant, tiens, allez.
Ouais, mais j'aime pas quand vous faites un René Fringant. Un Roger Fringant.
Mais non, mais je suis toujours enrhumé, ça me désespère.
Mais ça,
dans
vous
ce
êtes toujours enrhumé, moi ça me désespère même plus. C'est quand vous n'êtes pas enrhumé que je m'inquiète.
Je vais pas vous parler des fontaines de mort, mais...
mais je les vois, vous inquiétez
Merci
pas.
De vous épargner.
Sans oublier notre fidèle.
Eh ben, Tom.
Voilà, sans qui l'émission ne peut avoir...
Vous avez encore un rasoir en panne.
J'ai l'impression
qu'il y a quelqu'un.
Son téléphone ne marche plus bien.
Non, mais je vais présenter mon téléphone. Regardez, c'est quoi ce bordel? Toujours aussi sympa. Oh, un petit souci, les applications se ferment. Je regarde ça.
Bon, non, il vous a dit que votre téléphone était mort.
Non, et puis après, il me l'a rendu. J'y peux rien. Bon, ok, j'ai compris.
Non, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit, allez voir le réparateur.
Vous qui le prenez comme ça.
Bonjour monsieur SFR, mes applis marchent plus.
Ou alors je vous le vole et vous déclarez le vol.
Bah ouais, mais vous savez, c'est important. Alors je dis toujours reconditionné, c'est recyclé, hein, c'est
ça. Non, reconditionné.
Ah voilà, j'ai bien dit pour une fois, quoi. Ah, je sais plus, c'est un S9. Alors je sais plus à quel S
Super
ils sont
bien,
actuellement.
Super bien, moi j'aime bien.
Bah, c'était en 2002, ils ont dû le sortir.
Ils sont S92.
C'est déjà pas mal. Bref, vous écoutez les Grignoux comme tous les mercredis de 20h à 21h30. Je le tiens bien. Et rediffusion à partir de 15h le dimanche. Et puis, si vous n'avez pas entendu mon annonce, il suffit de pas écouter. Ou de taper tout simplement les Grignoux sans X, sans S sur
sans
Internet.
Rien.
Et là, vous tomberez sur des émissions qui datent depuis 2006. Parce que j'ai regardé, c'est 2006, c'est vieux hein, quand même. Là,
et maintenant, c'est la programmation Atom qui a travaillé pour que son morceau soit un, pas trop long.
Normalement,
deux,
ouais,
rock
2058,
roll.
C'est un peu rock, ça devrait
c'est un peu long. Hein.
Bien, combien il dit
2058.
Non, c'est bien.
Ça va, à moins de 3 minutes.
J'ai toujours dit pas plus de 2 minutes 20.
C'est lui qui nous a mis un salon de 4 minutes 30 à
pour démarrer une émission, quoi.
Ah, jamais.
Ah oui,
je l'ai dit de sélectionner. J'ai les morceaux de moins de 2 minutes 20.
Non.
C'est parti.
C'est faux, entièrement faux.
She sits in the top of a greener tree. She's got an aroma all under.
Que nous discourions, de la météo, et qu'encore une fois, mais faut dire, je suis aussi le roi des abrutis. Jean-Loup sait pertinemment qu'en disant il faut de l'eau, je vais bondir comme un crétin. Ah. Et ben il me dit il faut de l'eau, et naturellement je saute sur le placard et je m'énerve. Bref, c'est à vous, mon bon Jean-Loup, parce que c'est vous qui nous avez dégoté un sujet qui va peu ne paraître de pas d'actualité, que nous avions déjà évoqué il y a une bonne dizaine d'années.
Facile, ouais.
Nos amis, les chiroptères.
Ouais, les chiroptères. Qu'est-ce que c'est qu'un chiroptère ? Hein, Tom ? Vous qui regardez encore sur Internet, je ne sais pas quoi.
Les petites qui courent dans la bouillasse, et puis après, mettre le lien vidéo des morceaux, on peut se brosser.
Un chiroptère, c'est en voie de... pas de disparition, mais c'est menacé comme espèce.
Je ne sais pas ce que c'est.
C'est vrai ?
Pourtant, je dirais comme un coléoptère, un insecte.
Bah, il a essayé, il a répondu. Eh ben, vous savez que c'est le seul mammifère volant au monde. Non, ce n'est pas un oiseau,
non,
c'est
un
mammifère.
Les écureuils volants et tout ça.
Ah, mais ça vole pas, ça planote. Avant de s'exploser sur leur tonne de noisettes. Donc là, je vous parle. En fait, c'est un animal qui est quasiment insaisissable. Ah, ben alors, qu'est-ce que vous apprend, Tom ?
Mais non, mais je connais la réponse, je vais pas vous la dire, parce que ça va casser votre effet.
Bah, dites-le.
Alors, regardez-moi et continuez votre présentation.
Une souris
donc,
qui vole.
Le chiroptère est en danger, il se trouve de manière un peu indirecte. On a fait un sujet il y a 10 ans, mais qui n'avait rien à voir, c'est parce que Jean-Loup avait accueilli une colonie de chiroptères dans son volet roulant.
J'en sais rien, non, c'est pas. J'en reparlerai tout à l'heure parce qu'ils sont toujours
après,
là.
Là, il se passe qu'à Rennes, on a un gigantesque parking qui est promis à la démolition, afin que les Rennais se réapproprient la vue sur cette espèce de canal bizarre qui est devenu la Vilaine, qu'elle a toujours
qui
été.
Qui a été construit dans les années 60, ça je ne savais pas, là.
Oui, bref, on ratiboise le parking afin de se réapproprier la rivière, et ce faisant, on carbonise la plus grande, ce qui m'a semblé être, d'après les dernières sources que nous avions, la plus grande colonie de chiroptères du centre-ville.
Alors voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un chiroptère ? Ce sont des chauves-souris. Et ce soir, parce que c'était à moi de présenter quand même, nous accueillons Bretagne Vivante. Alors c'est une asso qu'on avait déjà accueillie, c'était en 2020, je ne dis pas de bêtises, c'était sur le comptage des oiseaux, qui apparemment sont plus ou moins en voie de disparition. Il y a
c'est même un collectif à Bretagne. C'est-à-dire que ça regroupe un paquet d'associations et qui sont liées à l'environnement en Bretagne. Et c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés en tout cas par leur environnement, Bretagne Vivante offre un champ totalement incroyable d'associations diverses et variées sur toutes les bestioles qui peuvent exister en Bretagne.
Ils vont donc nous parler de la chauve-souris.
Yes.
Un animal, c'est marrant parce que je me suis un petit peu renseigné quand même, si je connaissais par cœur les chauves-souris, je rigole en disant ça, un animal mystérieux, très mystérieux.
Vous avez peur.
Et que, comme dit dans la mémoire collective, limite maléfique, voire très maléfique.
Est-ce que vous avez déjà chopé une chauve-souris?
Oui, oui, oui.
Et touché dans vos mains une chauve-souris?
Non. Vous faites le malin, monsieur.
Il est puceau du chiroptère.
Ouais, mais moi, ils n'arrivent pas sur mon balcon de 10 mètres carrés avec un chat qui est complètement cinglé. Sur un chat, quand ils voient un chiroptère, même si on est au 14e étage, ça devient fou.
Bah oui, de toute façon, les chats, c'est toujours fou.
Ouais, mais alors,
allez. Ouais, je suis d'accord.
À aller virer la chauve-souris. Bref, on en saura un peu plus, parce que pour cet animal qui paraît étrange et qu'on connaît peu, pas...
Ou pas assez.
Ou pas assez, en fait, il y a pas mal de surprises et encore, apparemment, si j'ai bien compris, beaucoup de mystères. Donc, vers 20h45, ce sera autour de Bretagne Vivante. Mais en attendant, on se met un petit disque.
La programmation à Roger, et j'ai eu le tort de pas me lever.
Exactement.
Aussi, je vais laisser à Tom le choix
soin,
dans la...
Le soin.
Donc, j'ai trié par durée. J'ai pris un truc de 2 minutes 23.
Très bien.
Holy Golty, It's Natural Fact.
Non, c'est pas possible, c'est un super morceau. Ah, et puis ce sera la rubrique à Roger. C'est parti. C'est la rubrique à qui ? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui ? C'est la rubrique à qui, bon Dieu ? C'est la rubrique à qui, bon Dieu de bordel ?
Oh, mais c'est la rubrique à Roger !
Pauvre petit bonhomme, moi, à chaque fois, quand je vois la façon dont vous avez traité le papa de Tom...
Attendez, vous rappelez...
Vous lui avez hurlé dessus, le petit bonhomme.
On devait être à la 117e ou 120e prise. Ça faisait une heure et demie qu'on était dessus.
C'est pas un spécialiste.
C'est vrai qu'il était relou, quand même.
Il était... J'avais plus énergique, c'était... Allez, Roger, on y croit, là, mon Dieu.
J'ai bien cru qu'il allait vous coller un pain.
Bah, au bout d'une heure et demie, j'en pouvais plus, quoi.
Un pain d'ouvrier agricole picard, à mon avis, ça vaut son pesant de cacahuètes et de kilojoules. Dans le museau, mon avis.
C'est du MMA en direct. Boum, terminé.
Mon pauvre Jean-Loup, est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé à France Info la semaine dernière ?
Un scandale !
Avec Jean-François Hachili. Vous connaissez Jean-François Hachili, c'est le présentateur des Informés.
Non, bah allez-y.
Baraudin, quand j'ai entendu cette nouvelle, je me suis dit...
Bah allez-y.
Vous avez entendu la nouvelle, vous, Tom ?
Si, je l'ai entendu.
Le père Hachili, est soupçonné par sa direction, donc par France Info, d'avoir travaillé à l'élaboration d'une bio pour Jordan Bardella, le futur président d'extrême droite de la France. Or, il se trouve que ça n'a quand même pas plu à la direction de France Info. Et là, par contre, Jean-Loup, là, c'est la bonne nouvelle. Parce que justement, on parlait des dérives de CNews l'année dernière à qui on a prêté un contrat de chaîne d'information et qui s'est transformé en chaîne d'opinion façon Fox News. À la différence de ça, sur France Info, depuis juin 2023, lorsqu'on est journaliste sur le groupe de Radio France, eh ben on signe un engagement dans lequel on dit qu'à partir du moment où, en plus de son travail que l'on fait à la radio, on travaille pour quelqu'un d'autre, par exemple, ça peut être une entreprise, ou un homme politique, ou une femme politique, eh bien, on doit le déclarer.
Il y a une espèce pour éviter ce qu'on appelle les conflits d'intérêts, c'est
voilà.
ça
Voilà. Parce que derrière tout ça, donc, à Chili, il a le père des informés. Alors, c'est un vieux débat entre Jean-Louis et moi, mais je trouvais qu'effectivement, ça faisait longtemps que, bah, moi, j'écoutais plus les informés. Mon fiston, soucieux de ma santé mentale, avait zappé France Info, il m'avait calé sur Radio Classique. Bon, Radio Classique, ça appartient au groupe Les Échos de Bernard Arnault, mais ça ne diffuse que de la radio, de la musique classique, donc ça me détend. Et lors des émissions des informés, c'était quand même assez rigolo, parce que on avait énormément de représentants de journaux de droite, on avait des journalistes du Figaro,
Échos, à droite et gauche,
tout.
Ça s'appelle un débat.
Et de temps en temps, on avait un vieux de l'UMA. Et finalement, le plus à gauche, c'était le journaliste du journal La Croix. Et à plusieurs reprises, le journaliste du journal La Croix a fait part de son étonnement de la tenue des débats. Et mon bon Jean-Loup, si c'est arrivé sur Jean-François Alchili comme ça sur le coin de son nez, c'est pas parce que moi, Roger, pauvre trou du cul dans ma baignoire, je m'énervais sur les France Info, sur les émissions des informés, c'est tout simplement parce que c'est le résultat d'une enquête du journal du Monde. Et comment l'ambiance qui régnait dans cette émission avait fini par interpeller pas mal de gens, dont des journalistes du Monde qui ont enquêté sur le petit bonhomme. Et le petit bonhomme, il se trouve que, eh ben, il travaille pour Bardella. Alors il dit oui, mais j'ai pas signé de contrat. Et puis ça fait partie de ce qu'il appelle sa vie professionnelle privée. Sauf que, et je le dis, hein, puisque l'article précise bien, depuis juin 2023, tous les personnels, donc tous les journalistes de France Info, effectivement, s'engagent à déclarer leur lien avec... Parce que ça pose un problème
Ce
pour
sont
France
les fonctionnaires.
Info. France Info, qui est une radio du service
du
public,
groupe France,
voilà, et qui se veut neutre, Jean-Loup.
Ils sont jamais été neutres.
Non, mais c'est au nom, justement, de cette objectivité, au nom de cette neutralité, que le père Akili a été suspendu des informés. Et c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des codes, il y a une déontologie dans le service public, et que celui-là, et c'est ça que je voulais dire en plus au final. Donc moi, ça me rassure. Donc effectivement, tous les deux que je vous taquine c'est normal. Mais au final, le côté positif de tout ça, c'est que je suis rassuré de voir que ce bonhomme-là, qui est pote comme cochon apparemment avec Jordan Bardella, se retrouve suspendu d'antenne. Alors il dit. Oh, c'est violent. Et d'ailleurs, il faut quand même savoir que parmi tous les partis politiques, les seuls à avoir défendu Akili, c'est qui ? Jordan Bardella.
Bah, bien sûr.
Bah oui. Alors, parce que le problème, c'est que même si vous êtes de droite ou de Renaissance ou de n'importe qui, vous faites interviewer par Akili, parce que Akili ne faisait pas que les informer, hein, faisait d'autres émissions de débat politique, puisque c'était sa spécialité. Eh bien, on peut se dire, putain, waouh, l'autre, il est pote avec Bardella.
Bah, c'est clair.
Tu vois, ça va
ça
pas.
Ça oriente
cool.
les débats. Hein.
Et en tant qu'homme ou femme politique, vous pouviez très bien dire, ah non, Akili, non, vous me trouvez un autre, mais pas Akili. Et ça posait un problème. Ça, c'est ce que j'ai lu dans mon article qui parle de, comment dirais-je, et pour la rédaction, d'ailleurs le commentaire
news, hein.
de la rédaction, c'est ça, hein. À France Info, ils disent, on a découvert que ça comme tout le monde, et les bras nous en sont tombés, c'est un mélange des genres, c'est un conflit d'intérêts, et en plus c'est le RN, c'est pas un parti comme les autres, c'est un parti d'extrême droite, affirme un autre journal, Lionel Thompson, élu CGT du conseil d'administration Radio France. Les gens sont très choqués et impatients de voir comment la direction va réagir. Voilà, pouf pouf. Et de son côté, le syndicat national des journalistes rappelle qu'à Radio France, depuis juin 2023, tout journaliste le sollicité pour une collaboration extérieure, rémunérée ou non, doit demander une autorisation à la direction. Point.
Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est qu'assez...
C'est une bonne nouvelle.
Pour moi, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, quand même.
Ah bah ouais. Le fait qu'effectivement, on mette de côté les brebis galeuses, je trouve que c'est une excellente nouvelle.
J'ai même pas commencé le début, j'ai juste pris mon...
vous commencez par dire mais.
Non, mais... ce qui est rigolo, et vous avez raison, mais ce qui est rigolo, c'est que quand vous tombez sur CNews, ils qualifient tout ce qui est télé, radio...
Chaîne de gauchos.
Voilà, exactement. Ah ouais. Et bon, c'est ça me fait un peu, enfin pas un peu, il y a un côté un peu réaliste que moi j'aime bien France 2 et surtout les documentaires. Et quand on regarde Casse Investigation, notamment, j'aime bien cette journaliste Élise Lucet ou même ce qui est fait.
Elle va finir dans un port avec une gueuse autour du cou. Elle.
Ça sonne pas extrême gauche, c'est pas vrai, mais il y a quand même un petit, une petite fibre de gauche que je trouve appréciable. Ils sont plus à défendre le consommateur qu'à trouver des excuses à l'industriel, quoi. Donc très bien, très bien. Allez, hop, on l'a viré l'autre facho. Allez, au suivant.
Et ben voilà, bien. Et je vous avais dit, mon bon Jean-Loup, je le sentais pas, cet homme-là. J'ai un putain de nez. Mais vous êtes là, mais je suis un peu marabout. Et je vous le dis, c'est pas moi, c'est le monde qui dit. Tiens, parmi, alors, celui-là, je le connaissais pas. Est-ce que vous connaissez monsieur Guerriot?
Bien sûr.
Guerriot, il a fait quoi, Joël Guerriot?
C'était un footballeur des années 50 à Sochaux.
Joël Guerriot, c'est avançant. Le sénateur qui a essayé d'empoisonner une députée Renaissance ou Modem, je crois.
Pas
Modem.
Qu'elle s'est salée, c'est ça?
Voilà, c'est ça, pour la détendre. Il n'est pas responsable parce que de toute façon, la dope, il avait trouvé avec un autre collègue au Sénat et l'enquête en est là pour le moment. Et c'est rigolo, mais le Sénat, d'ailleurs, en plus de ça, autre chose amusante, vient publier un rapport où il s'inquiète des problèmes du développement de la drogue. Le Sénat s'inquiète et il met même en cause l'action du gouvernement en le taxant un petit peu de laxisme dans sa lutte contre la drogue. Alors ça, c'est amusant. Après l'affaire Guerriot, où on voit que le père Guerriot dit « Mais non, mais c'est l'autre sénateur de centre-droit là, qui m'a vendu le machin. » Enfin bref.
Bon, il, s'est fait amusant. Il s'est fait avoir, si j'ai bien compris.
C'est amusant,
aussi.
Enfin, c'est amusant de voir les sénateurs vraiment allumer Macron sur un truc pour lequel ils ne sont pas très clairs. Eh bien, Guerriot, il vote encore. Il vote à part apparemment, le fait d'avoir voulu tenter de, bricoler une de ses collègues députés ne semble pas avoir gêné son activité législative, parce qu'il vote et il fait partie de la minorité de sénateurs qui ont voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Moi, je dis pourri un jour, pourri toujours.
Voilà, enfin, il s'était fait un peu manipuler parce qu'il a été filmé. Et apparemment, la promotion canapé, c'est elle qui avait organisé.
Vous devriez faire avocat.
Ah, je défends personne.
Il devrait faire avocat. Il y a plein de tout pourri.
Vous connaissez cette vieille expression promotion canapé.
Non, mais là, c'est pas promotion canapé, l'autre. Il a essayé d'empoisonner,
Pas empoisonner, lui allier. Je ne défends rien. Je ne défends absolument rien, en plus.
Il défend pas.
Mais non. C'est une histoire de cul.
Quand vous avez des histoires de cul, vous, à chaque fois, c'est.
C'était pour le faire chanter. Il s'est fait,
fait
baiser.
C'est pas pour le cas de chanter, dire. Météo France, vous savez pourquoi la météo n'est plus fiable?
Ah bon, moi j'avais lancé déjà. Ah,
là, c'est lancé.
On a le temps.
hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah. Johnny don't like the teacher, Johnny don't like the school. One day Johnny gonna do something, show him he's nobody's fool. Oh yeah. Sally don't like her daddy, Sally don't like her friends, Sally and Johnny watching TV, waiting for it to end. Oh yeah!
Voilà, après, non mais je voulais présenter mes excuses parce qu'il y a eu un petit lapsus de compréhension. Moi je parlais du fameux sénateur qui s'est fait avoir dans une position, on va dire, inconfortable. Et...
avec une jeune fille bien plus jeune que sa fille.
C'est pas grave. Celle qui...
c'est pas grave. Non, mais...
c'était quoi le but du jeu ? Elle avait tout filmé et puis elle menaçait tout le monde. Promotion canapé, j'ai du pouvoir, je peux le faire chanter, vous me faites pas chier.
Mais quoi. Nous on parlait pas de celui-là, je on parlait sais. De Guerriot. Guerriot, celui qui a essayé d'empoisonner...
Je viens de m'excuser publiquement. Vous l'avez demandé.
Est-ce que vous pouvez aussi
à genoux, en plus.
Nous chanter quelque chose ?
Non, parce que ça, ce sera insulté
des auditeurs. On va se contenter de vos excuses publiques. Météo France. Vous savez que la météo occupe pratiquement les trois quarts de mes conversations. Vous le savez tous. Et vous en souffrez à chaque fois que
rien,
l'été, un été sur deux, voire deux étés sur trois, sont pourris en Bretagne. Eh bien, non seulement je vais continuer à gueuler sur la météo, mais en plus de ça, maintenant, elle sera plus fiable. Il en va de Météo France comme de tous les services publics dans un régime où on est, comment qu'il s'appelait dans le temps, En Marche, eh bien, afin de rendre Météo France beaucoup plus performant, on a supprimé ces 7-8 dernières années une flopée de, comment dirais-je, de personnel, et on les a remplacés par une base de données automatique baptisée Alpha. Ça a de la gueule, ça fait vraiment nouveau monde. Sauf que Alpha, utilisé dans la précipitation et couplé avec une absence flagrante de personnel, ça donne des résultats qui sont complètement tordus. Et ça va jusqu'à, comment dirais-je, ça peut être très grave, parce que un des représentants des syndicats de Météo France déclare qu'il ne recommande à personne de regarder les cartes de base qui annoncent la pluie et le beau temps, elles sont souvent truffées d'erreurs et ce n'est plus fiable. Jusqu'à des variations de 40 km/h en mer. 40 km/h en mer, ça va. En fait, c'est ce qui change la sortie en mer avec papa et maman en fait divers. voyez.
Oui, quand on est dans le port, tout est cool. Puis voilà, dès qu'on sort du port, voilà,
40 km/h, c'est ça qui fait la différence entre la sortie pique-nique et le fait d'hiver. Et voilà, et ben c'est très bien, c'est très bien. Alors, vous savez, tout se paye et les riches, eux aussi, en plus, c'est encore eux qui prennent le plus de bateaux. On peut espérer que ce soit les premiers à souffrir d'un cyclone qui ne sera pas déclaré par Météo France. Et ça sera tant mieux. Alors, tant mieux aussi si un jour Bruno Le Maire accepte de se pencher sur autre chose que ses livres de cul. Vous vous rappelez, il nous avait régalé en pleine réforme des retraites avec un bouquin, vous vous rappelez, où son héroïne était dilatée de partout. Et Bruno Le Maire, il vient de vanter la mise en place d'un index senior pour le travail des vieux. Un index.
Ah, ça m'étonne pas lui.
En fait, c'était le seul truc chiant de la réforme des retraites pour les patrons, c'est que ça obligeait les patrons à déclarer le pourcentage de personnes seniors qu'ils embauchent. De manière à ce qu'un jour ou l'autre, ça leur tombe sur le coin de la gueule, t'embauches pas assez de seniors, pouf, ou on te taxe, ou t'embauches des seniors, vous voyez ? Ça, c'est le seul truc qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. En fait, le seul truc de la réforme des retraites pourrie qui nous est tombé sur la gueule l'année dernière, c'était justement l'index senior. Et l'index senior a été retoqué par Fabius et ses amis. Mais ça n'empêche que Bruno Le Maire, à l'antenne de France Inter, déclare « C'est bien, il y a l'index senior, ça va être un outil qui va nous permettre de lutter contre le non-travail des seniors. » Bruno, arrête d'écrire des romans et... penche-toi un petit peu sur ce qui existe quand même, parce que c'est quand même des choses qui sont censées quand même te concerner.
Et c'est vrai,
Bruno
fait...
qui nous dit qu'on va passer, il y en a marre de donner des sous gratuitement, il a dit qu'on allait passer de l'état providence à l'état protecteur. Qu'est-ce que ça veut dire l'état protecteur ? Je ne sais pas.
Et surtout, ce qu'il a insisté, c'est qu'il disait qu'il faut arrêter le tout gratuit. Mais il n'y a rien de gratuit, on paye des impôts, c'est quand même des sous qui vont dans les caisses de l'État, quoi. C'est pas gratuit.
Et voilà. Tiens, nouveau plan loup. Allez, deux nouvelles pourries et on termine. Nouveau plan loup.
Bah allez-y, détendez-vous.
Je commence à comprendre pourquoi effectivement les gens que vous aviez essayé de contacter, Jean-Loup, ne soient
Michael,
pas
de
l'association, comment dire, vous savez, des observateurs du loup, ne soient pas véritablement.
Oui, désespérément.
J'en parlais avec ma chérie, l'autre soir, hier soir même, et elle me disait, tu sais, je suis pas persuadé que les défenseurs de la diversité, etc., aient envie de dire qu'il y ait du loup dans leur région. Pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement, dans la foulée des manifestations des agriculteurs, vient de dégonner un nouveau plan loup, avec un signal qui est vraiment très mauvais, a dénoncé un spécialiste de la biodiversité. L'État a choisi de déséquilibrer le plan en donnant une part prépondérante aux tirs de loups, aux destructions de loups dans la gestion de la présence de l'espèce. En clair, alors qu'avant, pour pouvoir buter un loup, il fallait qu'il y ait tout un tas d'enquêtes, etc.
Bah, il n'y avait pas de loup il y a 50 ans.
Maintenant, il n'y en aura plus, parce que l'État vient de décider qu'effectivement, maintenant, un bon loup, vous savez ce que c'est un bon loup ? C'est un loup mort,
mais
nous disait Custer.
Si, ce qui est assez rigolo, c'est dans l'inconscient collectif, c'est la trouille du loup. Regardez dans les contes de fées, les méchants, c'est les loups, c'est pas les...
Sauf que ça peut expliquer aussi pourquoi, eh bien, ça soit très difficile de choper des gens qui viennent nous parler du loup, alors que comme on va pouvoir en juger tout à l'heure plus tard, c'est beaucoup plus facile de parler des chauves-souris.
Et je vous parle pas des ours dans les
Parce
Pyrénées.
Parce qu'il n'y a pas encore de chasseurs de chauves-souris.
Et les ours dans les Pyrénées qui tuent tout ce qui est mouton, etc. Il y en a bien, il y en a quoi, 17? Il y en a trop. Beaucoup
eh bien.
Trop. C'est ce qu'ils disent les agriculteurs, là, moi.
On va conclure sur la dernière bonne nouvelle qui nous place pratiquement au niveau de la Roumanie et de la Bulgarie. Alors que l'Allemagne vient de déclarer, je l'ai rappelé il y a la semaine dernière, de dépénaliser effectivement la marijuana à des fins récréatives, la France vient de décider d'interdire les fleurs de cannabis médicales. En fait, tout simplement, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on appelle les fleurs de cannabis médicales ?
Il y a plusieurs cannabis, il faut le préciser.
Là, c'est le cannabis médical.
Il y a le champ industriel. C'est du cannabis, je suis désolé.
Ouais, mais il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de fleurs, mon bon Jean.
Bien sûr que si.
Il y a des fleurs sur les plants femelles.
Il y a des mâles. Ils se servent de la graine.
Si vous ne me laissez pas finir, vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas pourquoi je dis ça.
Bon, allez-y.
Ah, bien, mais il est gentil.
Putain, 10 secondes en une demi-heure.
Pourquoi on interdit les fleurs de cannabis, Jean-Loup ?
J'en sais rien.
Parce que ça sent, même de cannabis médical chargé en CBD et absolument pas chargé en THC, pourquoi elles sont interdites chez nous ?
Parce qu'il y en a qui les fument, non, c'est ça?
Eh ben, c'est, non, c'est parce que ça, c'est exactement la même gueule. Ça pue de la même façon que le cannabis chargé en THC. Bon. Or, les forces de police françaises n'étant pas équipées pour faire la différence entre la fleur de cannabis CBD et la fleur de cannabis THC, eh bien, on a décidé de tout interdire en vrac. Sauf que, effectivement, la fleur de cannabis représentait CBD, hein, j'entends, hein, pas THC.
Non, c'est pas. Là, on parle du cannabis industriel, enfin de.
Là, on parle de médical, cannabis médical, Jean-Louis.
Ah oui, enfin CBD.
Et donc CBD est absolument pas chargé en THC, mais afin effectivement de faciliter le travail de la police, eh bien, comment on va interdire à des gens comme comment dirais-je Robert qui dit. Voilà, alors que grâce à la fleur de cannabis CBD, j'entends encore une fois, eh bien, il parvenait à, comment dirais-je, se débarrasser de ses douleurs, et que on avait lancé, il y a 2 ans, la France a lancé des expériences de cannabis médical, mais comment voulez-vous que, effectivement, ça marche, si au fur et à mesure de l'expérimentation, on interdise les produits?
Voilà, moi, j'ai une question à vous poser, je ne défends rien, mais moi, personnellement, d'un premier coup d'œil, je suis incapable de faire la différence entre du cannabis qui défonce, du cannabis ACBD, eh ben, je termine, et ce qu'on appelle du chanvre industriel, qui est du cannabis. Ils n'ont pas les mêmes propriétés, mais c'est le même plan à la base.
Non, non, mais ils ont des produits en Suisse, notamment, où le CBD... Oui.
Je veux juste terminer sur une affirmation, parce qu'elle est vraie, historique. Jusqu'à la fin des années 50, qu'est-ce qui couvrait la plupart des champs en Bretagne? C'était pas du blé ni du maïs, c'était du chanvre industriel. On s'en servait notamment pour les cordages. Je suis désolé, il y avait les graines aussi, on faisait de l'huile avec, etc.
Ça remonte à longtemps, hein, parce que
années 50, 1950, pas 1850.
Mon pépère était cordelier, chanvrier, vous le savez. Et ça a disparu. Après, on apportait.
Dans les années 50.
On apportait du chanvre. Mais en fait, le souci, Jean-Loup, c'est que d'un côté, on dit on va expérimenter le CBD, etc., à des fins médicales. Et de l'autre, à des fins, parce qu'il existe en fait des substances toutes simples qui permettent de distinguer les deux produits, et justement, les flics suisses en sont équipés, mais ça coûte 2 euros le test, et puis c'est un problème de coût.
Alors, avant de conclure, parce que l'heure tourne, moi ce qui doit me faire rigoler, enfin, ce qui me fait rigoler, c'est, je suis sûr que les flics, quand ils prennent quelqu'un, allez, vous soufflez dans le ballon, c'est-à-dire dans le CBD ou le THC met, voilà, pour simplifier, il y en a un paquet qu'ils veulent dire, à votre avis, c'est quoi leur excuse?
C'est du CBD.
Même sur la chance, c'est du CBD.
Ben oui.
Et après, je crois qu'il y a une prise de sang.
Et les flics n'étant pas équipés des moyens, effectivement.
Il y a une prise de sang, normalement, après.
Ouais, mais même avec la prise de sang, CBD, THC, vous êtes baisé.
Eh non, c'est pas la même molécule.
Non, pas en France.
Ah, ben c'est une question que je pose, là.
Alors, mes enfants, ils ont regardé Enquête d'Action, où il y a des flics qui arrêtent des gens, machin. Et donc, il y avait un gars qui s'est fait choper et qui disait positif au test salivaire.
Ouais.
Et il disait non, j'ai fumé que de la CBD.
Okay.
Et donc, test sanguin. Et non, il a été.
Donc, il y a un test sanguin. Donc,
ouais, test sanguin. Ils peuvent savoir que c'est la diff entre la CBD et la normale.
Pour les flics, c'est pas une preuve absolue, c'est une indication. Et après, on passe à la casserole, c'est-à-dire une prise de sang.
Ouais, mais la prise de sang ne résout rien.
Bah si, c'est du CBD.
Le gars, il a été décrédible. Enfin, c'était du CBD qu'il avait consommé.
Vous comprenez? C'est-à-dire que le test, il tourne pareil, là
c'est
ou
pas ce que j'avais entendu ces derniers temps.
Attends, on est à deux à vous dire.
Après, c'est Enquête d'Action, hein, sur, je sais pas, quelle chaîne à la con.
On a les deux versions différentes pour deux origines différentes. Vous, la démocratie, je sais que vous êtes démocrate.
On se croirait chez Voltaire avec l'accumulation des preuves. Une demi-preuve plus une demi-preuve égale une preuve complète.
La majorité,
coupable.
La majorité gagne, c'est normal. Allez, on va couper là, on se met un petit disque et après, on accueille les représentants.
C'est quoi?
Larkin Po.
Ouais,
Bretagne,
c'est bien ça.
Vivante, si je peux présenter, qui vont nous parler des chauves-souris. Moi, je me méfie de ces bêtes. Enfin, bon, bref, on va en savoir un peu plus. À tout de suite!
To work. wish I had a heaven, heaven, a heaven of my own. I wish I had a heaven, heaven, a heaven of my own. Give all of my women a long and happy home. Pick my seat and sit down. I'm gonna preach these blues. I'm gonna pick my seat and sit down. And took off down the road. Grabbed up my suitcase and took off down the road.
Roger et Jean-Loup sont de fervents défenseurs de la nature. Aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos « Heureusement qu'il y a des gens comme vous !» et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel « Ah ouais !» C'est la rubrique « Et si on parlait d'écologie ?»
Voilà, nous accueillons Laure et Manon de Bretagne Vivante. Alors, voici, signaler qu'on a vu la sauce, c'était en 2020, si je ne dis pas de bêtises, et c'était sur une opération de comptage des oiseaux, parce qu'apparemment, les oiseaux, ça disparaît, en fait, c'est un peu comme tout, quoi. Et bon, pour des causes multiples. Mais vous, si on vous invite, c'est pour nous parler des chauves-souris. Comment vous dites de manière scientifique, Roger, qui est doué?
Moi, j'aime bien le terme des chiroptères.
Des chiroptères.
Que j'avais découvert avec un excellent film de Polanski, Le bal des vampires, avec l'autre cinglé qui est dans les Carpates à la recherche de vrais vampires, mais il prétend être chercheur de chiroptères. C'est bien ça le nom savant des chauves-souris, des chiroptères, hein,
ouais,
c'est ça, hein.
Ouais, c'est ça. Et vous savez ce que ça veut dire?
Mais il y en a plein de sortes, des chiroptères.
Vous savez ce que ça veut dire, chiroptère?
Non.
Ça veut dire main ailée en latin.
Ah, c'est marrant.
Alors, avant de parler de tout ça, donc c'est Bretagne Vivante qui anime un petit peu, qu'on a invité. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Bretagne Vivante, sur l'association Je sais pas, Laure.
Ouais, j'y vais. Bretagne Vivante, c'est une association régionale, ouais, sur 5 départements bretons. Qui œuvre depuis plus de 50 ans maintenant.
Pour... 50 ans quand même d'existence,
ouais. Pour la protection et la conservation de la nature en Bretagne.
De la nature globale.
En général, donc du coup on va traiter autant des chiroptères que des oiseaux, des plantes.
C'est un gigantesque collectif en fait.
C'est une grosse association, ouais, il y a des antennes un petit peu partout sur tout le territoire breton. On est à peu près 70 salariés.
Et vous, Laure, vous êtes une salariée, vous?
Moi, je suis salariée, ouais.
Ouais.
Et il y a à peu près 300 bénévoles très actifs. et on est soutenu par plus de 3000 adhérents.
Et je crois que vous travaillez aussi avec une autre association. J'ai oublié la première partie, vous savez, à mon âge, j'ai problème de mémoire, mais ça s'est remis par Mammifères de Bretagne. Je ne sais plus si c'est coopérative, collaboration.
Non, c'est le GMB.
Ouais.
Donc le GMB, c'est le groupe mammalogique breton.
C'est ça, bah voilà. Et je savais bien, on les avait invités aussi il y a longtemps, parce que pour moi, des mammifères en Bretagne, à part la vache ou le cochon, les rats, éventuellement les souris, je ne savais pas qu'on en avait plein.
Mais il sort peu de son appartement, attention. Non, ça, c'est un propos qui n'engage que lui, je tiens à vous le préciser quand même.
Moi, monsieur, j'ai quand même des animaux exceptionnels. Et pour en revenir à Bretagne Vivante, donc c'est une association qui est basée sur le Grand Ouest breton. Et Laure, comment vous êtes rentré dans cette association-là? Je vais y arriver. Un hasard, une volonté?
Une belle opportunité. J'ai rencontré, ah,
ça,
en fait...
C'est un beau mot, ça.
Ouais, j'ai rencontré un chiroptérologue.
Ah, on dit ça, un chiroptérologue?
Ouais, c'est ça.
On verrait bien ça dans un CHU, par contre. Chiroptérologue. Il exploite quoi?
Je vole les chiens mammifères. Voilà.
Moi, je le note parce que je ne savais pas que ça existait, chiroptérologue.
Donc, vous avez encore rencontré un spécialiste?
Ouais, un spécialiste des chauves-souris qui m'a fait découvrir ces animaux-là. Et qui m'a proposé du coup de rejoindre l'équipe de Rennes.
Ouais.
Chose que j'ai acceptée et voilà. Donc ça fait plus de 18 ans que je suis là-bas maintenant.
Et vous êtes devenu salarié petit à petit, quoi, je suppose.
Je suis arrivée en tant que salariée il y a 18 ans.
D'accord.
Et puis au départ en tant que chargée d'éducation et de formation.
Mmh.
Et puis de fil en aiguille, je me suis passionnée pour ces animaux et du coup me voilà maintenant aussi chargée d'études en chauve-souris.
D'accord. Et vous, Manon, vous êtes bénévole?
Ouais, tout à fait.
Alors comment on devient bénévole pour Bretagne Vivante?
Eh bah, ben, c'est assez simple en fait. Hein. J'ai envoyé un mail, il y a un mail général pour Bretagne Vivante, et puis j'ai demandé à m'inscrire à tous les groupes, littéralement. Mmh. Et un jour, j'ai reçu un mail de Laure, donc c'est Laure en fait, hein, qui m'a initié à ça, qui proposait une sortie capture au Bois de Sèvres, à Verne.
De chauve-souris?
Exactement.
Alors vous me dites, vous avez vu les gros yeux que vous m'avez fait quand vous avez dit, quand j'étais scout en 72, j'avais touché une chauve-souris?
Non, c'est pas ça,
capture,
pas
allez, allons-y.
Parce qu'on le fait dans des conditions particulières, et pas quand elles dorment.
Et on était en uniforme, nous, mademoiselle.
Ah, justement.
En uniforme.
Et il y avait le fagnon qui était posé à l'entrée de la grotte.
C'est leur affiché la truie, chauve-souris.
L'uniforme.
Donc, vous avez capturé des pauvres bêtes?
Mais en fait, je suis arrivée la nuit avec ma petite voiture, je connaissais personne, j'ai croisé Laure, et puis elle m'a dit, bah, tu viens avec moi, c'est parti. Et j'ai vu ma première chauve-souris, c'était un oreillard, donc c'est un chauve-souris qui a des très grandes oreilles.
Bah oui, je vois ce que vous dites.
Voilà.
Enfin, je rigole, c'est tellement rapide, il faut vraiment avoir l'œil.
Ah
hein,
ouais,
pour
ouais.
Le...
Et quand on les voit en vrai, elles sont... c'est assez fou, surtout celle-là, elle est vraiment particulière physiquement. Et en fait, bon, clairement, c'est coup de foudre. Hein. Deuxième capture, je m'inscrivais pour passer mon... un certificat en fait d'habilitation à la capture avec un collègue de l'or.
Ah,
aussi.
C'est intéressant. Et... Ça, je savais pas qu'il y avait
le
ce
Muséum
genre de...
national d'histoire naturelle de Paris propose le certificat. Il faut être avec un formateur en fait, c'est le formateur qui nous inscrit à ce certificat auprès du muséum. Et ensuite, on a une habilitation pour pouvoir capturer dans certaines régions. Il faut renouveler tous les ans et parce que c'est quand même des bêtes protégées, donc on fait pas n'importe quoi, mais donc on passe à un vrai
c'est
diplôme
très encadré.
À la fin. Oui, ah oui.
C'est-à-dire que maintenant que vous avez cette certification...
Je ne l'ai pas encore.
Vous ne l'avez pas encore,
mais
quand vous l'aurez... Vous allez l'avoir, je pense.
Je l'aurai.
Je le sens bien.
Quand vous l'aurez, comment vous serez donc habilité à faire découvrir ce que vous avez découvert, par exemple.
Je pourrais faire comme Laure si je suis embauchée, en effet, dans une structure. Ouais.
Mmh. Ah, moi, j'ai une question idiote, c'est comment ça s'attrape? Parce que moi, j'en ai vu, mais waouh, c'est pas un oiseau, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vif et furtif. Là, vous mettez quoi? Des filets? Je ne sais pas, c'est des questions... des grands filets, ouais. Là,
en fait, ouais, je parle sous ton... Tu me dis si je me trompe.
Sous l'autorité.
Voilà, exactement.
Bien.
En fait, on met des sortes de grandes cannes à pêche. On y met des filets qui ont des mailles assez fines. Et on les met à certaines hauteurs, parce que les chauves-souris ne volent pas toutes à la même hauteur, et ça dépend un petit peu.
Et vous mettez des gros spots de lumière?
Surtout pas.
Surtout
ah,
pas
bah.
Nous, on
ah,
se
moi,
met...
j'aurais été tenté, moi.
Attends,
spots
non,
de lumière,
coup,
ça attire les insectes, les chauves-souris, pouf.
Elles voient le filet, et elles ne sont pas bêtes. Donc en fait, nous, notre poste d'observation, et surtout de travail, il est bien écarté des filets, Et quand on y va avec une lumière rouge pour éviter le plus possible pas de lumière, d'éclairer en fait, le filet. Sauf quand on les démaille. Donc quand elles sont prises dans les filets, on descend les cannes à pêche des deux côtés. Et là, on démaille la chauve-souris, on la met dans un petit sac pour pas qu'elle se blesse, etc. Et on l'emmène à notre poste où on fait toutes les mesures biométriques, etc. Et ensuite, on la relâche.
Alors, petite question, est-ce que vous mettez des gants ?
Il y avait le petit homme
oui.
De...
ouais, et c'est obligatoire.
Pourquoi, en fait ? Parce que ça trimballe des saloperies sur elle
Et parce question. Qu'on peut, et parce, surtout parce qu'on peut aussi, nous, les contaminer.
Ah oui, ouais, non, ah ouais, pas, ça marche.
On les, bah non,
je
mais
pense au niveau humain, mais...
Ça s'appelle de la zoonose, ouais. C'est des virus qui se passent, en fait.
Petit homme.
Non, mais elle peut finir sa réponse.
Non, pas de problème.
Mais non, mais il est tellement brutal. Oui,
c'est des virus, peut... la zoonose, c'est des virus qui se passent entre l'homme et l'animal et on les diabolise beaucoup parce qu'elles ont des virus, etc., avec un super système immunitaire, mais nous aussi, on peut les infecter. Par exemple, la Covid-19, les chauves-souris françaises ne l'avaient pas et on ne savait pas quel aurait été l'impact si nous, on leur donnait finalement. Donc on a été obligés pendant plusieurs années de les capturer avec des masques, des gants. Mmh. Et les gants restent obligatoires aussi pour nous protéger, nous, mais elles aussi.
D'accord.
C'est dans les deux sens, ouais.
Non, Tom. Mais c'était la question, quand vous dites elle voit le filet, mais je croyais que les chauves-souris, elles marchaient avec des espèces
des ultrasons.
De ultrasons. Ouais,
ouais, mais leurs yeux marchent très bien aussi, ah, à aussi la lumière.
En fait, okay. La nuit, elles sont comme nous, elles voient quand même nettement moins bien.
Okay.
Et du coup, si on les éclaire, si on éclaire le filet, on les aide et là, elles vont
ah,
le voir.
D'accord.
Et effectivement, après, elles ont un système d'écholocation.
D'accord.
Donc, elles vont émettre un signal sonore qui va se répercuter et qui peut se répercuter sur le filet. Et si elles sont dans une, si on pose notre filet dans une allée et qu'elles arrivent dans cette allée en étant en chasse,
ouais, ouais.
Donc en émettant pas mal d'ultrasons, elles vont détecter le filet,
suite,
elles vont passer au-dessus.
Okay.
Et là, on va faire chou blanc, on va pas les avoir.
D'accord.
On va réussir à taper en fait que celles qui émettent pas, soit parce qu'elles ont déjà un insecte dans la gueule, ou soit parce qu'elles sont sur une zone qu'elles connaissent parfaitement bien.
Ah,
donc
d'accord.
Elles sont en transit,
elles, ont pas besoin
elles y vont tranquilles. Okay. Parce qu'elles
en autoroute.
Et la pollution, okay. La pollution, comment ? La pollution des villes par la lumière.
Bah, on va en parler. On va
c'est,
en parler.
C'est une catastrophe.
Bah,
de
pas
ce
forcément.
Fait, parce que moi, je pensais qu'elles n'étaient pas gênées. En fait, vous êtes en train de nous dire que ça les perturbe quand même.
La
ces
pollution
lumières.
Lumineuse.
Ouais, la pollution lumineuse, en fait, ça fait des obstacles dans le paysage. Et donc, effectivement, ça peut les bloquer. Après, on a des espèces très opportunistes. Et si je parle de la pipistrelle commune, je pense que beaucoup la connaissent.
Bah évidemment,
la plus
connue.
Parce qu'il faut vraiment avoir un sacré coup d'œil, surtout quand on les voit virevolter.
Mais en fait, la pipistrelle commune, c'est vraiment celle qu'on croise partout, et c'est celle qu'aujourd'hui on voit en ville chasser autour des lampadaires. Et elle saisit
c'est
cette opportunité.
Ouais.
Donc la lumière,
parce que moi,
les insectes.
Exactement.
Ouais. Donc moi, j'avais vu ça avec des mômes, c'était rigolo. Mais là, on était à la campagne, centre de la France, il y avait un putain dans le bourg. On habitait, on avait loué une baraque, et il y avait un gros un lampadaire, et il y avait le jeu des chauves-souris autour des tous les papillons
bah,
qui
buffet,
étaient attirés
hein.
Par ça.
Ouais.
Et je pensais naïvement que plus il y avait de lumière, en fait, non, pas forcément. Ça
non,
pouvait...
parce qu'en fait, ça va, à un moment donné, elles vont être limitées quand même. Les chauves-souris, elles sont nombreuses, elles ont un besoin de chasser et de manger qui est énorme. Ça mange un tiers de son poids par nuit, ce qui est quand même énorme.
Pas mal, ouais.
Pas mal, donc en nombre d'insectes, ça fait beaucoup.
C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'insectes.
Certainement.
Donc
oui.
J'imagine.
Ouais, c'est pas à cause de l'homme, en fait.
J'imagine qu'effectivement, la politique de pesticides, comment, la disparition des oiseaux, ça les impacte aussi. Il y a de moins en moins de. De toute façon, je vais voir le pare-brise de sa bagnole quand on traverse la campagne.
Ah,
mais
il n'y a
plus rien. Ouais, y a
plus
rien comme
puis elles n'ont pas toutes le même régime alimentaire. Tout n'est pas, par exemple, les gros scarabées ou des choses comme ça. Par exemple, le grand murin, il va manger plutôt des insectes comme ça. Ils ne vont pas particulièrement aller vers la lumière. C'est des petits insectes forestiers.
Mm-hmm.
Elles ne chassent pas au même endroit. Donc, en fait, celles qui sont en ville, ouais, elles sont hyper opportunistes. Mais pour les autres, c'est plus une gêne qu'autre chose. Dans ce qu'on appelle les corridors, en fait, c'est leur chemin de passage.
Alors, avant de passer un petit 10, donc pour conclure, donc les chauves-souris, c'est pas aveugle.
Certainement pas.
Non, non mais bon.
Il y a eu des tests affreux savez, pour savoir si elle l'était ou pas.
Il
hein.
Y a plein de gens, je suis pas le seul. Et donc, ça sert à quoi alors les ultrasons, si elles sont pas aveugles, elles peuvent chasser à vue.
Pas dans la nuit.
Non, parce qu'elles voient à peu près comme nous, donc
d'accord.
Nous, on aurait du mal à voir tous les insectes si on était...
Elles n'ont pas une vision comme les chats, par exemple.
Non, elles
n'ont
pas.
Elles voient
en
pas
fait,
dans
ça
la
fait
nuit.
Une image. L'écho qui revient, qui répercute sur l'insecte ou peu importe,
ouais.
Revient en une image mentale, finalement. Et c'est comme ça qu'elles sondent leur environnement dans la nuit.
Et elles savent à quelle distance c'est l'obstacle ou l'insecte.
Exactement. Mmh.
On s'écoute un petit disque et j'ai un milliard de questions à vous poser après. C'est parti.
Hey Donnie, can I get a martini? It's been a hard night. My story.
From the lowest rat to the fattest crooked cop. Fingers in the pot, break the nose, make the pain stop. Orphans turn to angels, why'd you give them wings? Beaten wives, shattered eyes, why'd you give them things? I sing and I dance, not so good, but give me a chance. I put my ear to the street and make my eyes start to glance around. See what's going down, shorty. I put my fingers to the keys and see what can't be found. Brick by brick, Mr. Blue lights out of city ticks. No one goes to heaven, not even by accident. Everyone is equally blessed by its prettiness. Everyone is equally savage in the wilderness. Now Mr. Blue don't have a son, but he really wish he had one, so we raised Donnie from behind the curtain. Nurture and frigidity like the egg of a robin. That's what's going down on 22nd Avenue.
Ah, Mr. Blue, Mr. Blue, who are you? How do you do? You do, you do. Put a finger on the trigger, dominate the father figure, cast a shadow, the outcast, the past, present, and the future. Who are you, Mr. Blue, Mr. Blue, who are you? What do you do? You do, you do. Finger on the trigger, dominate the father figure, he cast a shadow, the outlast, the past.
With an iron fist, not really, don't be silly. He can only trust himself from the violence and the killings. Willingly shouldered on Washington, had to drop out. Cause Blue knows the ins and outs of how to turn a cop out. Extortion, politician, kickbacks and abortion. The fixed election, illegal unions, executions. With a flick of the wrist, Blue could burn the Constitution. Or make legal heroin, gambling or prostitution. Benevolent God, no, malevolent devil, yes. The puppets on the strings of his invisible castle. Like Jesus, on the tech mold. More than just twice, it must be golden. Cause being broke is a frozen life and ice. Too nice, enticing, like nice rings.
Mr. Blue can hear you breathing.
Found in the ditch, is a snitch between brothers. Angels of death protect all unwed mothers. Cause Mr. Blue loves.
Mr. Blue, Mr. Blue, who are you? How do you do? You do, you do. There's a finger on the trigger, dominate the father figure, cast a shadow, the outlast, the past, present, and the future. Who are you, Mr. Blue?
They got one thing on their mind. Nothing's ever funny when there's money to be made. Hey, businessmen and fools, old school lizards and the rules. You better be pulling the trigger if you sit on my stool. Pride and homicide coincide on a roller coaster death ride. Mr. Blue's face on a wanted poster.
Who are you, Mr. Blue? Mr. Blue, who are you? How do you do? You do, you do. There's a finger on the trigger, dominate the father figure, cast a shadow, the outlast, the past, present, and the future. Who are you, Mr. Blue? Mr. Blue.
And the future.
Et voilà, toujours en compagnie de Manon et de Laure de Bretagne Vivante qui nous parlent des chauves-souris. J'arrive pas à dire Oh, j'ai du mal à dire.
Alors, moi, je peux vous dire, c'est des chiroptères.
Bon, bah, merci.
Et je l'ai même écrit chiroptérologue. Ouais. Qui, contrairement à ce que des tordus pourraient penser, n'a aucune fonction dans le CHU de Rennes, mais s'occupe uniquement des chauves-souris.
Une petite question, on va regrouper un peu les préjugés. Si je parle des chauves-souris, alors déjà c'est des saloperies, ça pompe du sang, c'est terrible. Et je vous raconte pas, alors bon, les garçons ça va, c'est les cheveux courts, mais alors les filles qui ont les cheveux un peu longs, ça s'agrippe là-dedans, ça refile un paquet de maladies, et en plus, je vois pas du tout à quoi ça sert à rien une chauve-souris. Bon, je dis ça d'une manière un peu provocatrice, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont...
Non, il y a vous surtout.
Bah oui, je pense. Je suis pas le seul.
Alors,
qu'est-ce
que vous pourriez répondre à Jean-Loup?
Est-ce que ça suce du sang déjà, ces saloperies?
Il y a des espèces qui sucent le sang.
Ah oui, mais pas chez nous.
Mais pas chez nous.
Humain.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, dans le groupe des chauves-souris, il y a près de 1200 espèces, ce qui est énorme.
Ouais, quand même, mine de rien.
Et sur les 1200 espèces, il y a 3 vampires. Donc c'est vraiment pas grand.
Vous regardez un documentaire, ils attaquent les pattes des poulets, j'ai vu un documentaire là-dessus.
Les phoques, vaches.
Les vaches aussi.
Rarement, mais pas les humains.
Par contre, les vaches, ils peuvent quand même pas mal les abîmer quand même,
France. Ouais, mais en fait, parce que, effectivement, elles sont porteuses de plein de maladies et de virus, donc elles transmettent des maladies.
Maladies indirectes. Mais ces vampires ne vivent pas chez nous.
Non.
Amérique du Sud.
Et puis, il y a toutes les chauves-souris qui bouffent des fruits.
Ah ouais?
Les frites.
Il y en a un paquet. Ouais. Il y en a des balèzes. C'est des balèzes. Il y en a
souvent, elles sont très grosses. Ouais.
Elles sont grosses.
Dans tout l'hémisphère sud, c'est des grosses chauves-souris qui vont manger des fruits et plein d'autres trucs, du nectar de fleurs, des poissons.
Ouais, elles pollinisent beaucoup les fleurs. Il y a certaines fleurs qui sont spécialisées avec la chauve-souris.
Un peu comme les abeilles, en fait.
Exactement. Le cactus, il s'ouvre que dans la nuit. Sa fleur ne s'ouvre que dans la nuit. En Afrique, par exemple, il y a un cactus qui s'ouvre que dans la nuit. Et c'est les chauves-souris viennent à ce moment-là boire le nectar et du coup elles pollinisent le cactus.
Ah, c'est hallucinant.
Et c'est vraiment une relation qu'entre les deux espèces.
Mais chez nous c'est beaucoup moins exotique parce que là moi j'ai noté au cours de la conversation des oreillards, des pipistrelles. Qu'est-ce qu'on a comme variété?
On a 17 en tout, hein, si je dis pas de bêtises. Un peu plus?
36 en France.
Ah, mais ça va, c'est pas vous le spécialiste.
Et il vous a dit c'était faux.
Non mais c'est pas loin cela dit parce que
en Bretagne, 17%.
On dit 22 en Bretagne et en fait c'est plutôt 18. Enfin il y en a 4 qui sont vraiment anecdotiques donc c'est plutôt 18.
Ah 18 c'est énorme, je pensais pas qu'il y en aurait autant.
C'était faux quand même.
Non mais là où il a raison c'est que 18 ça paraît beaucoup non?
Bah finalement c'est beaucoup et on pense généralement les gens s'imaginent pas effectivement.
Bah oui, car
moi j'imagine une chauve-souris, oreillard, pipistrelle et puis
Mais déjà oreillard il y en a 2. Ah ouais. Pipistrelle, il y en a 4. Voilà.
Et les murins, un gros tas.
Deuxième préjugé aussi, ça s'accroche dans les cheveux, c'est évident. Et quand je vois l'or, c'est les cheveux courts.
J'ai fait exprès.
Ah, c'est ça.
Et Manon, alors,
non, mais moi, je les attache. Ouais, sinon
alors, les gens,
tata.
Évidemment.
Bien sûr.
Ouais, et alors, c'est quoi? Ça vient d'où cette histoire?
En fait, c'est le seul moyen qu'une chauve-souris s'accroche à nous, que ce soit cheveux, visage, tout ça, c'est parce qu'elle est désorientée. Donc c'est vraiment pas de sa faute et elle en a vraiment pas envie d'être là. Mmh. Et donc elle s'accroche à ce qu'elle peut. Mais il y a eu aussi beaucoup d'histoires qui ont été diabolisées pour diaboliser la chauve-souris. C'était un peu comme les chouettes à l'époque qui étaient...
maléfiques.
Voilà, donc placardées en fait sur les portes, cloutées sur les portes, etc. On a inventé beaucoup d'histoires autour de ces animaux-là. Et finalement, ces histoires, elles ont la vie dure parce qu'elles perdurent encore.
Elles nuisent aux bestioles parce qu'on va se dire, oh, je vais pas me faire chier à garder des chauves-souris chez moi.
Par exemple,
dans
Covid-19.
Grenier, je découvre que j'ai des
chauves-souris. Oui, c'était les chauves-souris qui avaient transmis ça aux
Chinois.
Je vais
tout boucher.
Non,
pour
mais
pas
vous savez qu'il y a des gens en Asie qui ont. Enfin, des communautés en Asie qui sont allées dans des grottes et qui ont brûlé des chauves-souris vivantes, plus de 3000 individus en même temps. Pour se protéger de la Covid-19 en pensant que ça allait leur arriver quoi. Et ça a été des massacres comme ça, on l'a su qu'après, mais alors que c'est pas du tout le cas, enfin c'est pas elles qui leur ont donné.
La littérature fantastique a fait beaucoup de mal à la chauve-souris.
Oui, elle est...
Non, mais la littérature
elle est rarement bien mise en valeur.
Quand on voit le vampire qui se transforme en chauve-souris, pouf-pouf, pour aller choper ses victimes, c'est pas tip-top quand même comme image.
Non, ça, c'est pas tip-top. Et puis, effectivement, toutes les légendes sont encore plus anciennes, quoi.
Et dernière question, en fait, ça sert à rien, les chauves-souris, à part faire peur aux filles quand les cheveux longs.
Eh bien, s'il n'y en avait plus de chauves-souris, je vous invite à passer de très bonnes nuits avec des moustiques déjà l'été.
Non, mais il y a beaucoup plus d'insectes la nuit.
Que de chauves-souris
que le jour. Et donc, du coup, les chauves-souris sont quand même les seuls insectivores nocturnes. Donc, s'il n'y avait pas les chauves-souris pour manger tous ces insectes nocturnes, on risque, comme dit Manon, d'être envahi d'insectes.
Et je dis ça sur les moustiques, mais il y a les récoltes aussi.
C'est quoi l'état de la chauve-souris en Bretagne, pour parler pouf, dans quel état se trouve la chauve-souris?
Alors, nous, dans le cadre de l'Observatoire des mammifères, on se rend compte que sur les gîtes qu'on suit depuis des années, parce que ce sont des gîtes protégés, finalement, les populations sont relativement constantes. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et on se rend compte que, du coup, la protection et la conservation a une utilité à la chose. Après, si on regarde les chiffres nationaux, là, on se rend compte qu'on a certaines espèces qui chutent considérablement.
En campagne
En campagne et partout, j'ai envie de dire. Et ce qui est assez étonnant et aussi
inquiétant,
c'est que la pipistrelle commune chute, la noctule commune chute considérablement, la sérotine commune, et toutes ces trois espèces-là, on les appelle communes. Et finalement, elles risquent de plus être si communes que ça.
Ouais, pas si communes, ça va finir.
Alors, c'est lié à quoi ? On a parlé des pesticides déversés par millions de tonnes, et puis alors, apparemment, ils vont avoir blanc-seing désormais avec la nouvelle réforme d'agriculture que nous promet Macron. Est-ce qu'il n'y a que ça comme problème ?
Non, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que beaucoup d'espèces sont quand même anthropiques et donc vivent dans du bâti. Et qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir des maisons bien hermétiques, contrairement à avant où on avait des greniers un peu courants d'air. Et, donc
et on les rénove beaucoup aussi.
Donc on rénove jusqu'au comble, donc ça fait de l'habitat en moins. Dans nos paysages aujourd'hui, on a de nouvelles choses aussi qui apparaissent, comme les éoliennes,
les routes.
Alors, est-ce que j'ai une amie qui vient de s'installer une éolienne, comment dirais-je, dans son jardin, une éolienne taille moyenne pour alimenter sa baraque, etc. Est-ce que ce type de construction peut provoquer effectivement des dégâts dans la commune? Est-ce que comment l'éolienne qu'a installé mon ami dans son terrain, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une bestiole qui doit faire 10 mètres, 12 mètres de haut, quoi.
Ouais, elle n'est pas très haute et j'imagine surtout que la longueur des pales.
Des pales.
Est pas très importante.
Non, c'est pas des pales qui sont très, très larges.
Et deux mots sur les éoliennes, parce qu'il y a quoi? Il y a 10 ans, on parlait ça comme la solution miracle, hyper écologique, etc. Puis quand j'entends des gens de sensibilité écologique, c'est une saloperie. C'est quoi le problème avec les éoliennes? C'est le mouvement des les bestioles. Enfin,
les chauves-souris, en tout cas, elles
n'arrivent pas à fixer en fait la vitesse de.
Il y a toute la vie faune, les oiseaux qui sont concernés, et puis les chauves-souris, en fait, toutes les espèces volantes. Alors, il peut y avoir de l'impact avec les pales, mais pas que. En fait, rien que le mouvement en fait de l'éolienne va créer des dépressions atmosphériques. Et du coup, en fait, la chauve-souris qui est toute petite et très légère
va être déstabilisée.
Elle peut être déstabilisée et ça peut même jusqu'à la compresser en fait à l'intérieur. Et du coup, on appelle ça un barotraumatisme. Et donc, ça la comprime et ça la tue.
Alors, d'où l'intérêt justement de Bretagne Vivante, de tous les travaux que vous menez, des analyses, du comptage, etc. pour pouvoir essayer de trouver des solutions. C'est ça un peu aussi l'objectif de Bretagne Vivante ?
Oui, et sur les projets éoliens, par exemple, on est pas mal alerté et puis du coup sollicité. On a du mal à répondre à tout et à être partout. Mais l'idée, effectivement, c'est de montrer, en tout cas, que quand on a... Parce qu'on ne connaît pas tout non plus des chauves-souris en Bretagne.
C'est ça, parce que j'ai vu... En fait, on a commencé à s'intéresser aux chauves-souris que dans les années 1980. C'est hier, en fait.
Les études sont assez récentes. Et puis, au-delà de ça, en fait, les gîtes, on ne les connaît pas tous. Il y a beaucoup de gîtes qui sont aussi chez des gens. si les gens nous donnent pas accès à leur maison, ben nous du coup ces gîtes là ben on oui. les connaît pas, donc on peut pas tout mettre en protection.
Mais alors puisqu'on parle de gîtes, parce que moi il y a un sujet quand même qui me préoccupe, c'est là est-ce que c'est vrai qu'effectivement sous l'actuel parking de la Vilaine on a un gîte de chiroptères? Et quid de ces pauvres bêtes quand la mairie a des fins, comment dirait presque plus qu'électoralistes qu'écologistes, aura décidé d'anéantir leur habitat.
Alors du coup, de ce que j'ai compris quand même au niveau de République, tout le, il y a une seule partie du.
Ouais, c'est une place de Bretagne pour simplifier.
Ouais, une seule partie du recouvrement qui va être mis à ciel ouvert.
Tout va pas être pété.
Et du coup, oui, il y a de la chauve-souris qui passe. De la chauve-souris à gîter réellement sous le pont, c'est pas complètement avéré. Mais de toute façon, vu qu'il y a de la chauve-souris à passer, il va y avoir de la compensation sûrement. Donc,
ils vont mettre des refuges à chauve-souris.
Et
du
coup, la compensation, c'est ça en fait. Et si vous regardez à Rennes, il y a des refuges, des gîtes à chauve-souris sur des ponts, sur des arbres, etc.
Ça marche? C'est une question.
Ça peut marcher si, justement, en cas de compensation, ça peut marcher. Si à un moment donné, on détruit un habitat où il y avait effectivement du monde, elles vont chercher autre chose dans les environs. Donc là, ça peut fonctionner.
Ce que je voulais dire, on va se mettre un petit disque. Après, j'ai quelques questions à vous poser.
Non, mais justement pour
sur la je termine
pour la compensation.
Puis aussi sur la protection. C'est-à-dire, voilà, je suis un mec hyper branché chauve-souris. Je vois que je peux acheter sur internet, je pense sans problème, des gîtes à chauve-souris. Donc j'installe ça, je sais pas, dans mon jardin, dans les conditions. Mais c'est pile ou face, dans le sens où c'est complètement aléatoire. Ou est-ce que ça marche en fait?
Ça dépend de l'endroit aussi où vous le mettez, quoi. Mais par exemple, s'il est mis trop bas, c'est...
Je mets à la taille idéale. Je suis un peu caricatural.
Disons qu'on le met à la taille idéale tout en haut d'un arbre, il y a des chances. Pourquoi pas ?
Juste pour savoir.
Parce que moi, je l'ai fait avec ma fille pendant le confinement. Il fallait bien s'occuper. Et mais on l'a fabriqué, c'est-à-dire avec les chutes de bois que j'ai pu trouver, avec les petites lattes. On a collé des petites lattes, pas mis de peinture, rien pour que le... Et pouf, j'installe ça et je montre ça à un pote qui est naturaliste, Laurent, qui me dit « Oui, mais il en faut plus. T'en as mis qu'un. » Avec l'ouverture façon boîte aux lettres par en dessous. Mais j'en ai mis qu'un avec mes filles. On en a installé qu'un. Et il me dit « Oui, mais il en faut plus. » C'est un seul suffit pas, il faut mettre plusieurs boîtes.
Les chauves-souris, il y a plein d'espèces qui vont occuper plusieurs gîtes tout au long de la saison. Donc ces espèces-là, oui, elles vont avoir besoin dans un petit réseau, dans un petit territoire, elles vont avoir besoin de vraiment plusieurs gîtes. Après, moi j'ai essayé à la maison aussi. J'avais des gros chênes avec plein de cavités, ça n'a jamais marché.
C'est vrai?
Non, parce que du coup, évidemment qu'elles ont préféré aller se mettre dans les cavités.
C'est elles qui décident en fait.
Arboricoles, c'est vraiment elles qui décident, ouais.
On se met un petit disque, parce qu'après j'ai une tonne de questions et je vois l'heure qui tourne. Justement sur
commencer à parler, on n'écoutera jamais le disque.
Je faisais un petit résumé. Justement, comment les protéger. C'est parti. Voilà, après cette version assez laborieuse.
Rigoler. Pascal Comlade. Pascal Comlade, un spécialiste égyptien de reggae, je lui connais 4 versions.
Il nous reste 6 minutes avec
si
Laure et Manon.
Si vous me titillez, vous perdez du temps.
C'est pas vous l'invité. Voilà. Bref, il nous reste 6 minutes. Et moi, c'est-à-dire très peu de temps. Moi, dans mon. Je sais pas, un HLM, mais là où j'habite, en fait, c'est une copropriété de 14 étages et j'habite au 14e étage. Et quand j'ai aux gens qui m'entourent, j'ai des chauves-souris chez moi, elles sont là, où ça ricane à moitié. Et heureusement que j'ai pris une vidéo que je vous montrerai tout à l'heure et vous allez peut-être pouvoir me dire de quel type
vous
de chauves-souris il s'agit.
On l'a vu 250 fois.
Ben, vous l'avez pas vu, vous, qui êtes des spécialistes.
On a hâte de la voir.
Voilà. Et donc, comment je peux faire pour protéger mes chauves-souris? Voilà, une question bête, idiote. Je peux pas, je déclare pas.
Eh ben, déjà, c'est intéressant de dire à Bretagne Vivante que vous avez pas mal de chauves-souris chez vous. Voilà. Donc maintenant, on le sait. Il nous faudra l'adresse.
Je vous la donnerai.
Mais en fait, si elles sont là, vous m'avez dit depuis 10 ans à peu près, c'est ça?
Minimum.
Donc c'est qu'elles sont bien, déjà. Maintenant, 14e étage, bon, il n'y a pas trop.
Dernier, c'est le dernier.
Oui, c'est qu'elles doivent être au niveau des toits. Ou, voilà.
Elles sont au niveau des toits.
Donc c'est qu'elles s'y sentent bien. Elles sont en plus là en période de reproduction, donc c'est sûrement une colonie, sûrement, c'est vraiment une suspicion de Miss Bap, peut-être, si elles reviennent tous les ans en grand nombre. Et pour le coup, bah, il n'y a rien à faire si elles sont bien là. On n'a rien à rajouter, c'est qu'elles sont à l'aise où elles sont.
Mais si on rajoute une antenne 5G, parce qu'ils en parlent en ma copropriété.
C'est pas comme l'éolien. Aujourd'hui, 5G, c'est très récent et il n'y a pas d'études, en tout cas, moi, à ma connaissance, qui sont sorties sur l'impact.
C'est pas les mêmes ondes.
Je sais pas.
On n'a pas de connaissances, je crois, toi, Laure, tu,
non,
est-ce que
moi
tu sais.
J'avais cherché un peu aussi. Et,
j'ai pas trouvé.
Ces antennes-là perturbent les insectes. Visiblement.
Pourquoi
de ce
ça
que
perturbe
lu.
Les insectes
En fait, ils font des stridulations particulières avec leurs ailes ou leurs pattes pour communiquer ou pour se reproduire. Mmh. Et ça peut faire des ondes qui sont similaires. Donc en fait, ça va les attirer alors qu'il n'y a rien. Et ils n'ont pas une durée très longue. Donc,
je sais pas trop.
Voilà, c'est juste une question. Mais par contre, je peux vous signaler, dans mon immeuble à moi, à telle adresse, il y a des chauves-souris. C'est pas perdu, en fait, vous récupérez ou
c'est même super.
Ouais, c'est vrai.
Bah oui, parce qu'on pourrait venir tout voir tous les ans. Quelles sont les espèces ?
Il vous le dit, mais il y a 15 ans, quand on a reçu déjà le spécialiste chauve-souris, il devait déjà déclarer.
On va le faire officiellement. Intéressant, c'est de venir un soir.
Ouais.
À la tombée de la nuit.
Genre, non, n'allez pas chez lui un soir.
Avec un détecteur.
Genre heure de l'apéro.
Avec un
quoi.
Détecteur d'ultrasons. Genre
à l'apéro. Alors d'où vous venez à l'apéro
et voilà. Regarde, on essaye de voir d'où ça sort et on essaye de compter combien d'individus sortent. Alors, et là, on aurait une idée.
Et avec le type d'ultrasons, on peut espérer s'approcher du genre. Peut-être pas l'espèce, mais au moins du genre, peut-être
alors,
l'espèce.
Deuxième question aussi. Alors déjà, il faut que je planque mon chat.
Oui.
Il m'est arrivé, je ne sais pas, il y a 2-3 semaines, je ne me souviens plus exactement, une chauve-souris est rentrée sur mon balcon, et j'ai un balcon, comme on dit, vérandé. Et j'ai vu mon putain de chat qui était sous ses stéroïdes, vraiment plus. Il avait dû prendre de la coke ou un truc comme ça, j'en sais rien.
Vous l'avez laissé traîner alors.
Et là, j'étais très embêté parce que j'ai vu la chauve-souris qui virevoltait d'un coin à l'autre et qui n'arrivait pas à sortir. Et moi, comme un con, j'aime bien les chauves-souris, mais j'en ai un peu la trouille comme plein de gens.
Comme plein de gens. Vous avez la trouille des chauves-souris.
J'ai sorti un parapluie pour essayer de la faire dévier vers la fenêtre. Vous pouvez passer au-dessus. Bon, elle est finalement partie, mais à un moment, elle s'est accrochée, en fait, elle s'est posée. Et pour être honnête, j'ai eu la trouille de la prendre. Est-ce que j'ai vraiment eu bien fait d'avoir eu la trouille de la prendre ou est-ce que j'aurais dû la prendre?
Avoir la trouille de la prendre, non. Après, de toute manière, c'est une espèce protégée. En tant que gens particuliers comme nous tous ici, on n'a pas le droit de les toucher.
D'accord.
C'est une espèce protégée. On n'a pas le droit de les manipuler.
Ouais.
Après, si elle est bloquée dans la maison, pour la sortir dehors, on peut par exemple prendre
un chat.
Surtout s'il y a un chat, on peut prendre un torchon, par exemple, et l'englober.
Pas directement à la main.
Non, pas directement à la main. Encore une fois, l'histoire de...
Sauf
on peut
si vous êtes scout.
Ou...
Moi, je l'ai fait scout.
Ouais, bon, ça, c'est
ouais, mais...
les années 70.
Voilà, il y a 50 ans. Et prendre un torchon, un linge, en fait, quelconque, et puis lui mettre autour délicatement, la prendre, et puis là, on la relâche dehors, elle s'en va.
D'accord. Ça, c'est bien terminé pour finir. Mais est-ce que vous pouvez expliquer à mon chat? Ah, j'ai du mal, là. Je lui parle, on se regarde dans les yeux tous les deux.
Je crois qu'il a un instinct qui est plus fort que vos mots. Ouais.
En tout cas, si on ramasse une chauve-souris blessée, ça existe, comme pour la LPO, des centres où on peut envoyer la petite bestiole pour essayer de la sauver.
Ouais, il y a une antenne, enfin, en tout cas il y a tout un dispositif qui est mis en place avec le GMB. C'est un réseau de soins où il y a des bénévoles qui prennent en charge et tout, mais qui sont agréés, machin. Et ouais, il y a des numéros, il suffit de taper sur Google. Et c'est ça,
généralement, vous allez tomber sur mon numéro.
Ouais. C'est comme ça.
Il est vilaine, je souris. Ça marche. Numéro, je veux dire, et par moi, là, je donne les premiers conseils. Et puis après, je peux orienter vers des vétérinaires spécialisés en faune sauvage ou vers des centres de soins quand vraiment l'animal a besoin.
Et des gens comme nous qui peuvent faire le trajet entre deux, venir chercher la chauve-souris et l'emmener jusqu'à.
On est rapatrieur, donc on peut effectivement faire des transports et on peut aussi surtout diagnostiquer l'animal.
Ouais.
D'accord. Écoutez, il va falloir qu'on conclue. Alors donc, si je veux vous joindre, je tape Bretagne Vivante, en fait, Rennes, pour simplifier. Et là, je tomberai sur un contact téléphonique. Est-ce qu'on peut vous voir? Est-ce que vous avez un local?
Alors, on est hébergé à la Maison de la Consommation et de l'Environnement, juste à côté.
Oui,
là,
pas loin, ouais.
Et vous pouvez nous appeler et puis on peut convenir effectivement.
D'un rendez-vous, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en vous appelant en fait, tout simplement.
Et par mail également. Oui, il y a plein de. Ouais.
De toute manière, vous trouverez tous les contacts que vous voulez en tapant les Grignoux, en allant sur Canal B. Enfin, tapez les Grignoux, c'est mieux, ça nous fait de la pub. Sans X, sans S, et puis on va mettre tous les liens internet, etc.
Vous avez des années que vous dites ça nous fait de la pub, mais j'ai jamais vu ça.
Il est là, Roger. On vous dit salut. À la semaine prochaine. Un petit morceau, c'est parti.
Bah non, ça va être la pub.
C'est fini.